Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pendant la grossesse, je m'étais demandé quelle chanson j'allais lui faire écouter en premier. Et vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai fini par choisir Le Jardin Extraordinaire de Charles Trenet, qui était ma chanson préférée quand j'étais enfant. Et surtout parce qu'à un moment, il dit, il raconte, il se passe plein de trucs dans Le Jardin Extraordinaire la nuit, il y a des statues qui viennent danser sur la pelouse, il y a des canards qui parlent anglais. Et à la fin, il dit, pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve, il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Et je m'étais dit, quand même, il suffit pour ça d'un peu d'imagination, c'est une bonne base pour commencer dans la vie.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute.
Let's go.
On est avec Nicolas. Salut Nicolas.
Hello, comment ça va ?
Bah super, et toi ?
Ouais, super. Super, c'est vrai. Hein ?
C'est vrai ?
Ouais.
À ce point ?
Ah ouais.
Tu m'as envoyé un message pour me dire j'aimerais bien venir parler dans ton podcast. C'est quoi les critères ? Je t'ai juste dit viens.
Exactement. C'était assez simple. Ça m'a paru assez simple. J'ai bien aimé.
D'un autre côté, je connais un petit peu ce que tu fais puisque je t'ai découvert et ce sera peut-être l'occasion de faire découvrir le podcast à mes auditeurs, mes auditrices. Un podcast que vous avez fait avec deux compères à toi, que j'ai moi découvert par Ambroise
Carminati,
que j'avais interviewé dans Histoire de succès si jamais ça vous intéresse. C'est le mec qui est derrière notamment les fameux vidéos de Marius qui sont complètement folles. Enfin, il a fait plein de trucs en bois d'une manière générale. Et un troisième compère dont j'ai oublié
Baptiste
le prénom.
Baptiste Pignon.
Baptiste. Et vous faites un podcast qui s'appelle « Des trains à travers la plaine ».
Ouais, où on se promène un peu dans le répertoire francophone. On prend un thème et on parle de tout ce que ça nous évoque. Et on s'appuie sur des chansons, des films, des extraits de bouquins.
Et c'est trop chouette, et vous en faites pas assez à mon goût, mais bon.
Ouais, à mon goût non plus, mais bon. Ambroise, si tu nous écoutes.
C'est Ambroise apparemment qui est
le chef.
La tête de file.
Exactement.
Et donc ouais, quand tu m'as dit, moi j'aimerais bien venir parler, je t'ai dit, bah viens donc. Je savais même pas combien t'as d'enfants, qui sont-ils, d'où ils viennent, etc. Quoi. Enfin, d'où ils viennent a priori, ça je sais. Mais...
Moi aussi, a priori, je sais. J'en ai deux, des enfants.
Ouais.
Voilà, ils ont 13 ans et 10 ans.
Ok, t'as un garçon.
Une fille et un garçon.
Une fille de 13.
Ouais, une fille de 13 et un garçon de 10.
Bah écoute, bienvenue Nicolas.
Merci beaucoup de m'accueillir.
Est-ce que tu pourrais me raconter un peu, en quelques phrases, ce dont t'as envie de causer ? Dans ton rapport à la paternité.
Mon rapport à la paternité, je pense que moi, je dirais pas que j'ai une grande angoisse vis-à-vis du monde tel qu'il est, mais quand même un truc, je trouve pas ça toujours super. Un petit côté un peu Eva Bester, tu vois. J'aime beaucoup Eva Bester.
Eva Bester qui est une animatrice.
Qui faisait une émission qui s'appelle Remède à la mélancolie, qui maintenant fait une émission qui s'appelle L'embellie, et dont la première question là, c'est êtes-vous content d'avoir été mis au monde ? Et c'est vrai que parfois je peux être amené à me poser la question, mais moins depuis que j'ai des enfants.
J'allais dire, ça a évolué.
Ouais, ça a beaucoup. Enfin, j'ai toujours été d'un naturel joyeux mais mélancolique, mais je pense que mes enfants sont ma contribution à rendre le monde meilleur.
Grosse pression pour.
Grosse pression sur les épaules des enfants. Ouais. Allez, bon courage les mômes. Amusez-vous bien.
D'où vient ton désir? Je sais même pas quel âge t'as.
J'ai, attends, moi non plus, je sais plus quel âge j'ai. Ouais, à peu près, j'ai 42 ans.
Ok. Et je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'avoir des enfants?
Je crois que alors d'abord, j'ai trois frangins. Donc on est quatre frères. Donc pour moi, le côté clan comme ça, on s'est toujours auto-suffi. On partait en vacances, en week-end.
À l'âge de 5 ans.
Ouais, ouais, mais non, mais tu vois, il y avait ce truc où on partait en vacances dans une maison dans le sud, et tous les étés on partait là-bas, mais on s'est jamais fait de potes là-bas parce qu'en fait, à nous quatre, on se suffisait.
C'est quoi l'écart d'âge entre les quatre?
Donc il y en a un qui a, l'aîné a 47 ans et le plus jeune a 41.
Ok. Ouais, donc vous êtes.
Ouais, on est très groupés. Ouais, très groupés, et puis ça fonctionne vraiment par. Tous les binômes fonctionnent en fait. Avec l'aîné, on était un peu ceux qui faisaient les blagues et qui étaient un peu les grandes gueules. Et le deuxième et quatrième étaient un peu plus réservés. Après, moi, j'ai un an d'écart avec mon petit frère, donc on était dans la même classe. À un moment, j'ai redoublé, donc on avait les mêmes potes, on a fait partie du même groupe de rap. Ouais, absolument. Je lâche des infos. Et voilà. Et avec mon frère juste au-dessus de moi, on était un peu les deux littéraires. Lui, il fait du cinoche. On a monté un magazine de théâtre ensemble. Enfin, voilà. Et les deux autres sont scientifiques. Donc, tous les binômes fonctionnaient, mais tous les quatre ensemble, c'est encore mieux. Donc, voilà. J'ai toujours grandi avec ce truc-là.
Et pour toi, la fratrie, c'était un truc dans lequel tu pouvais t'épanouir. Ce qui est pas souvent le cas, hein.
Ah ouais, moi, je me suis complètement épanoui dans la fratrie, ouais.
Parce qu'il y a des fratries un peu toxiques, avec de la masculinité à la con dedans et tout, quoi, tu vois.
Zéro. Zéro masculinité toxique, zéro challenge, zéro concours de qui pissera le plus loin. De toute manière, je n'ai jamais été là-dedans.
Un peu d'émulation quand même entre vous, un peu de compète ou...
Pas vraiment. Alors, j'ai des souvenirs de matchs de tennis entre mes deux frères aînés, où effectivement il y avait un peu de compète, mais c'était juste parce qu'il y en a un qui est plus mauvais joueur que l'autre, et il y en a un qui aime bien le chercher, donc voilà, on a des souvenirs assez forts de matchs ou avec des raquettes cassées.
Bien sûr.
Mais j'ai jamais été en compète avec mon petit frère qui a un an de moins que moi et où on se ressemblait beaucoup. Il a toujours été plus grand que moi.
En taille, tu veux dire?
En taille, ouais. Il est plus sportif, il fait du saut en parachute, moi je suis incapable de monter sur un escabeau. Enfin voilà, on se complète assez bien, et avec mon petit frère par exemple, on a habité sur le même palier. Après, il habitait dans l'immeuble à côté de moi.
Ah ouais.
Puis à quelques rues. Après, j'ai déménagé, je suis allé à Charenton et lui il est resté à Nation. Je l'ai rapatrié là, ça y est. Je l'ai rapatrié à Charenton, il habite en face de chez moi. Nos enfants sont dans la même classe.
Mais c'est fou.
Ouais, on est très clanique.
Ouais, je vois bien. Effectivement, c'est dur de rentrer.
Eh ben, pas tant que ça, parce que tu vois, toutes les quatre femmes, les quatre belles-sœurs ont trouvé leur place. Elles s'entendent bien. Elles savent que ça va être compliqué de nous diviser, mais elles n'en ont pas l'intention, donc tout va bien.
Mais je parlais pour quelqu'un d'extérieur, tu vois, tu disais, on ne trouvait pas forcément d'amis.
Ah ouais, on ne trouvait pas forcément d'amis parce qu'on n'en avait pas besoin. Oui. Si tu veux, quand il y avait des gens qui venaient, on était très accueillants et tout ça, mais... Je comparais plutôt ça à ma femme qui, elle, partait toujours au même endroit en vacances, et on continue d'y aller. Et quand on arrive sur la plage, on dit bonjour à 125 personnes parce qu'elle connaît tout le monde, parce que voilà, c'est des générations et des générations qui se croisent et qui se retrouvent. Moi, 30 ans là-bas, je connaissais personne. Voilà. Je connaissais personne. Si, je connaissais une voisine en dessous avec qui je suis resté très proche, mais c'est tout, quoi.
Je trouve ça assez génial de voir comment les familles peuvent se verrouiller, entre guillemets. Alors, je dis pas que c'est... Mais tu vois, d'avoir un truc, d'aller vers l'extérieur ou alors de rester entre soi, quoi. Je trouve ça toujours assez, assez fascinant de voir comment ça fonctionne.
Ouais, mais il y a un espèce d'équilibre. Il y avait un bien-être. Et en même temps, je te dis, c'était pas excluant parce qu'on avait des potes quand même qui venaient en vacances. La maison était ouverte. Il y avait plein de gens qui venaient. Enfin, tu vois, ça a toujours été des... Ma mère organisait toujours des grandes fêtes intergénérationnelles. Donc... On a plein de cousins qui sont pas des vrais cousins, mais qui sont là. Enfin, tu vois, la famille est au sens très large.
Oui, donc c'est moins clanique que ce que tu dis.
Ouais, c'est moins clanique. Mais quand même, voilà, il y a un noyau dur de... Les frangins ont...
Les frangins, ça rigole pas.
Exactement.
Et tu me parlais de ça par rapport à ton désir de paternité?
Ouais, voilà. Donc moi, je me suis jamais imaginé sans enfant, en fait. Toujours, je me suis dit, bah ouais, évidemment, j'aurais des enfants. Enfin, j'aurais même plusieurs enfants. Au moins deux pour qu'il y ait des frères, quoi, une fratrie.
Monter un clan à deux, quoi.
Exactement. Ouais, ouais, qu'ils puissent se tenir l'un l'autre. Je trouvais ça important.
Et comment t'as progressé vers ce but-là en grandissant? C'était vraiment un truc que t'avais en tête et qui était...
Je me suis jamais vraiment posé la question parce qu'en plus, on est on forme avec mon épouse. J'aime bien dire ce mot, épouse.
Et puis c'est ton épouse.
Voilà, c'est mon épouse à moi.
Elle
que
est
j'ai.
À moi.
Voilà, c'est ma gonzesse.
Ma gonzesse.
Ma gonzesse. On est ensemble depuis qu'on a 18 ans. Voilà, donc tu vois la question.
Ça me parle, tu sais.
Ouais, je sais ça. Et du coup, voilà, on ne s'est pas vraiment posé la question, c'est-à-dire qu'à un moment, elle est tombée enceinte. Voilà, c'était bien.
Vous n'êtes pas posé la question ?
On ne s'est pas posé la question.
Ça n'a jamais été une question de
non.
votre couple ?
Non. Elle est tombée enceinte, on a dit, ah bah super.
Waouh.
C'était pas exact.
Je suis ébobie.
Oui, je vois ça, j'entends ça.
Non, mais je trouve ça à la fois génial et en même temps, je me dis, putain, c'est quand même un gros truc, tu vois. Le fait que ce soit aussi naturel pour vous.
Ouais. Mais on a cette chance-là que, en fait, tout est assez naturel chez nous depuis 25 ans maintenant.
Ok.
Tout se passe assez naturellement. Voilà, à un moment, on a dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, tiens, on a qu'à se marier.
Ok.
On s'est marié.
Mais je veux dire, il y a un moment donné où elle se contraceptait, où tu te contraceptais, enfin, il y avait la contraception et on a décidé d'arrêter,
mais plus pour des, si mon souvenir est bon, pour des questions, c'était elle qui prenait la pilule et c'était un peu, tu vois, un peu contraignant et tout ça. Enfin, c'était un truc qui lui convenait plus trop, donc elle a arrêté, voilà. Mais on s'est pas dit, tiens, il faut qu'on essaye.
Ouais.
Et donc, voilà, elle est tombée enceinte assez rapidement. C'était pas exactement le bon moment, je crois, parce qu'elle devait commencer à
un job,
ouais, un boulot ça. Ou quelque chose comme ça. Donc, il me semble comme ça qu'on s'est dit, tiens, c'est pas. Ouf. Allez. Voilà. Tout simplement.
Mais, comment dire, dans ta tête aussi, tu vois, c'est trop intéressant, vraiment. Et je me dis juste, dans ta tête, tu t'es jamais dit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, pour moi, il y a une question vraiment folle de c'est naturel de faire des enfants avec cette femme et ça fait partie du truc, quoi.
Ah ouais. Okay. Ouais.
Mais t'avais un désir quand même.
Ah, j'avais un désir d'enfant, mais pas un truc de me dire il me faut un enfant tout de suite, tu vois. J'avais 29 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il n'y avait pas un truc pressant. C'est arrivé. Et par contre, c'était pareil. La paternité était complètement naturelle, tout de suite.
Waouh, ok. Comment s'est passée cette grossesse pour toi ?
Pour moi. Pour ma femme, c'était autre chose. Mais non, pour moi.
Je te rappelle qu'on est dans l'histoire de Daron. Hein.
ouais, c'est vrai. Non, pour moi. Ouais, très bien. Ouais, j'ai pas de. Enfin, si, parce que il y a eu des histoires de rétention d'eau et tout ça, donc c'était un peu compliqué pour elle, donc c'était un peu lourd physiquement. Mais à côté de ça, moi j'attendais ça avec plaisir. Je sais juste qu'on a déménagé juste avant d'apprendre que ma femme était enceinte et je m'étais dit, ah cool, je vais avoir un bureau. Et que finalement, comme on a appris qu'elle était enceinte, bah, j'avais plus de bureau. Voilà, c'est tout.
Le bureau est passé à la trappe.
Voilà, exactement. Le bureau est passé à la trappe.
Et tu disais que c'était pas simple pour elle?
Ouais, ça n'a pas été simple physiquement.
Oui.
Pas
moralement. Et
pas
tout.
Moralement, je crois pas. Et puis surtout, de toute manière, dès que notre fille est arrivée, c'est cool. Ça va être cool.
Comment s'est passé l'accouchement pour toi ? J'ai l'impression que c'est tellement fluide.
Ah ouais, mais je crois pas réinventer. Hein. Je crois pas que ça soit une mythologie personnelle. J'ai l'impression vraiment. Enfin, mon souvenir est comme ça et l'accouchement. C'était assez facile aussi. Enfin, ça a duré longtemps. La journée a duré, enfin, le travail a duré longtemps, près de 12 heures. Donc voilà, mais je me rappelle juste avoir envoyé un texto à ma mère et regretter tout de suite parce que je me dis « Ah, elle va venir à l'hôpital, elle va attendre toute la journée derrière la porte, ça va être long.
C'est pas un conseil qu'on peut donner.
Voilà, non.
D'une manière générale.
Ne, voilà, c'était, en plus, c'était genre pas les débuts de Facebook, mais tu vois, c'était en 2009, donc ça faisait pas très longtemps. Donc on avait tendance à mettre beaucoup de trucs.
Ah oui.
On maîtrisait pas, donc je crois que ma femme a dû mettre un statut et tout, donc on commençait à avoir plein de messages de ah qu'est-ce que où t'en es, qu'est-ce que tu fais, nanana. Oh, ça c'était un peu l'angoisse. Voilà. Mais après moi j'attendais, j'étais assez assez serein. Et après non, j'ai juste le souvenir qu'effectivement on a eu du temps à avoir une chambre.
Ouais.
Donc ma femme est restée quelques douzaines d'heures assise sur la table d'accouchement, que c'était pas très confortable, après la naissance.
Ah oui, ok.
Voilà, ouais, après la naissance.
Non, mais tu vas trop vite, moi je veux parler de la naissance.
Ouais, ouais.
Mais tu te souviens de ça en tout cas?
Ouais, je me souviens de ça, je me souviens de... Mais parce que j'ai une photo où j'ai ma fille dans les bras et je dors
oui.
Comme ça, je m'endors à moitié, on a l'impression qu'elle va tomber parce que la photo est prise comme ça.
On a tous plus ou moins cette photo-là.
Ouais. Mais... Et alors l'accouchement en soi, bah voilà, un truc. Après, elle est arrivée, il a fallu s'en occuper assez rapidement. Ils l'ont prise parce que elle avait avalé du liquide amniotique.
Ok.
Oui. Et puis ils sont revenus. Ils sont revenus en nous disant elle a un petit problème à la hanche. Vous savez pas ce que c'était. Moi, j'étais un peu au radar quand même parce que en fait, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc voilà. Là, j'étais un peu au radar. Et on est allé. Ils m'ont emmené. Ils m'ont dit. Ils lui ont mis un linge d'abduction. Parce qu'elle avait les hanches un peu luxées. Et voilà, ils m'ont dit voilà, il faut lui mettre le pyjama. J'ai dit ah, d'accord. Et je m'attendais à regarder comment on faisait pour mettre un pyjama. Ils m'ont dit bah, non, mais c'est vous qui allez le faire. J'ai dit ah bon. Voilà. Et donc, j'ai mis son pyjama. Et voilà.
Tu t'es lancé dedans.
Je me suis lancé dedans. Et après, on allait se promener un peu dans les couloirs. Je lui ai expliqué que Sarkozy était président, mais que c'est pas grave, ça allait passer.
Ouais, comment se passe comment se passe la rencontre avec ta fille justement?
Il y a un truc, ouais, je me suis tout de suite senti père. Parce que je me suis, alors j'étais le premier de mes potes à avoir un enfant dans ma bande.
29 ans à Paris, c'est un peu tôt, on
ouais,
peut le dire.
Exactement, hein, 29 ans, ouais,
alors c'est la moyenne nationale.
Ouais.
Faut le savoir, mais à Paris globalement, en général. En dehors de Paris, c'est un peu plus tôt. Et dans Paris, c'est souvent plutôt vers entre 35 et 40. Quoi.
Et ben voilà. Donc, moi, effectivement, j'étais un peu comme ça. Et alors après, j'ai découvert après que... Enfin, j'ai des potes pour qui ça n'a pas été immédiat, le sentiment de paternité.
Ah bah oui.
Donc, j'ai découvert à ce moment-là, en fait, que ça pouvait ne pas être un lien immédiat. Moi, j'ai tout de suite eu l'impression de basculer dans une espèce de dimension parallèle où ça serait exactement la même chose à un ou deux milliers de mètres près. Voilà, il y avait un truc, un point de vue qui changeait. Mais de pas grand-chose, c'est la même vie qu'avant, mais avec aussi... Et alors ça, j'exagère parce que j'avais une pote du magazine pour lequel je bossais qui avait eu son premier enfant un mois avant moi et qui m'avait dit, tu vas voir, c'est assez ouf. Tu ressens immédiatement un amour infini et une boule d'angoisse. Et j'ai dit, ah oui, ça je vois. Parce que je me suis tout de suite dit, ah waouh. Dans quoi je l'ai foutu?
À ce point?
Bah, il y a un truc de se dire, oh, elle va être triste, il va y avoir des histoires d'amour qui vont mal se finir, elle va risquer d'être malheureuse parfois, et en même temps, c'est tellement chouette, elle va découvrir Rabbi Jacob et Georges Brassens, c'est cool. Voilà, tout ce truc.
Et en même temps, il y a Sarkozy qui est président.
Ouais, horrible. Non, le truc auquel j'avais pensé quand même, très en amont, pendant la grossesse, je m'étais demandé quelle chanson j'allais lui faire écouter en premier. Et vraiment, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai fini par choisir Le Jardin Extraordinaire de Charles Trenet, qui était ma chanson préférée quand j'étais enfant. Et surtout parce qu'à un moment, il dit... il raconte, donc il se passe plein de trucs dans Le Jardin Extraordinaire. La nuit, il y a des statues qui viennent danser sur la pelouse. Il y a des canards qui parlent anglais. Et à la fin, il dit, pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Et je m'étais dit, quand même, il suffit pour ça d'un peu d'imagination, c'est une bonne base pour commencer dans la vie. Donc j'ai attendu d'être rentré à la maison. J'ai pas mis de chanson dans la voiture, rien du tout. J'ai attendu pour que ça soit la première chanson qu'elle écoute en arrivant à la maison.
Et tu lui faisais pas écouter In Utero, tu sais, parce qu'on dit souvent. Moi, c'était une des réflexions que j'avais, tu vois, pendant la grossesse. C'était qu'est-ce que j'ai envie de lui faire écouter avant même qu'elle arrive au monde, quoi.
Alors, j'ai considéré qu'avant, je pouvais lui faire écouter ce que je voulais.
Ouais.
Et donc, j'ai dû lui chanter l'intégrale de Brassens, ce qui agaçait beaucoup ma femme, évidemment.
Tu chantais,
ouais. Ouais, je lui chantais, ouais. Après, je lui ai chanté beaucoup de chansons à ma fille. Pour l'endormir et tout, elle avait besoin que je reste à côté d'elle et que je lui chante des chansons. Donc on négociait le soir. Combien ? Trois chansons ? Non. Deux. Non, trois plus machin.
Mais tu veux dire que tu négociais avec ta femme pour que tu...
Non, je négociais avec ma fille.
Ah,
quand elle était un peu plus grande.
Ok, ok. Ah oui, donc elle voulait plus de chansons possibles.
Elle voulait plus de chansons possibles. Voilà, et elle choisissait les chansons en fonction de la durée des chansons.
Ah ouais ?
Ouais.
Non, mais tu t'es mis dans une panade sans le savoir.
Non, j'adorais ça. J'adorais ça. Maintenant, je peux plus, elle veut plus. Et...
Ah, elle a 13 ans.
Ouais, elle a 13 ans. On va y venir. J'essaye parfois.
On va y venir. Ouais. très bien. J'ai l'impression que c'est tellement fluide pour toi.
Hyper fluide. Non, mais c'est très naturel chez moi. Vraiment, c'est un truc.
Il n'y a rien qui coince.
Non, il y a beaucoup de gens pour qui. Parfois, je vois bien même les histoires d'aller au parc ou les trucs comme ça qui disent ah, c'est chiant, faut ça. Je vois pas le problème. Ils sont au parc. Si j'ai pas envie de jouer avec eux, je peux bouquiner ou machin. Et pendant qu'ils sont en train de jouer, je peux pas. Je suis dehors. Il y a pire comme truc. Alors je vois bien le côté. C'est un peu drôle de raconter comme ça. Ouais, j'aime pas aller au parc et tout. C'est chiant, c'est la prison et tout machin. J'ai jamais eu ça.
Ok. Tu parlais tout à l'heure de mélancolie.
Oui.
Comment t'as la sensation que dans ta paternité, et après on va parler de ton deuxième. Cette mélancolie a pris de la place. Et comment tu fais pour la gérer, peut-être la transmettre aussi à tes enfants, quoi?
Alors, je l'ai transmise, mais j'ai l'impression, bien malgré moi, à ma fille, qui parfois a des petits trucs de mélancolie.
Mais ça se concrétise comment? Elle a 13 ans. Hein,
ouais, elle a 13 ans.
Elle est dans un âge un peu...
Ouais, ouais, très gentiment.
Mais en fait, c'est là où moi, je me rends compte que vraiment... Je crois qu'entre 13 et 14, 13 c'est vraiment l'âge pivot, tu vois, où 14 ans, ça y est, t'es ado, 12 ans, t'es encore un bébé, et 13 ans, c'est vraiment, j'ai la sensation,
la
vraiment,
sensation de bascule, ouais.
Pivot, quoi. Déjà, en plus, c'est nul comme chiffre, 13, quoi, tu vois.
C'est pas quoi en faire.
Non, c'est pas. Mais alors, ouais, comment ça se concrétise chez elle?
Bah, il y a des petits trucs, parfois, je la vois qui est un peu moins maintenant, mais quand elle était petite. Il y avait parfois un petit truc de tristesse comme ça qui passait ou de... C'est déjà bientôt fini, tu vois, les vacances. C'est déjà bientôt fini. J'y profite là, maintenant. Ouais. T'imagines pas comment ça sera après. Ou quand on a dû déménager, donc c'était il y a 3 ans, ouais, il y a eu un truc de... Mais j'ai pas envie de partir de là où j'ai grandi, moi. Je veux rester dans mon quartier, je veux rester avec mes trucs, je veux rester avec mes potes, je veux rester...
Et c'est un truc qui t'anime, toi, pour le coup.
Oui, complètement. Oui. Ouais, complètement. J'ai déménagé, enfin, la première fois, j'ai déménagé dans le même pâté de maison, si tu veux. Donc, ouais. J'ai grandi pendant 40 ans, je suis resté au même endroit. Et après, je me suis exilé.
Non, mais je parlais de la mélancolie en tant que telle.
Oui, mais c'est vraiment, ça fait partie de la mélancolie de se dire, moi, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie que les choses bougent, j'ai pas envie que les choses s'en aillent, quoi. J'ai pas envie.
Parlons de ton fils.
Mon fils.
C'est pareil, j'imagine. C'est pour toi, c'est hop, ça y est, on va faire un petit deuxième, c'est parti.
Alors, on va faire un petit deuxième, sauf qu'il est arrivé dans des conditions un peu plus particulières parce que ma mère était malade. Et que du coup, bah, tu vois, avec mes. Pour deux de mes frères, donc pour trois d'entre nous, il y a eu un enfant né. En 3 mois, il y a eu 3 enfants, quoi. En 5 mois, il y a eu entre le mois d'octobre et le mois de janvier 2012-2013, il y a eu 3 enfants. Donc, qui correspondent à l'époque où ma mère était malade et où ma mère est décédée.
Ok.
Voilà. Donc, il arrivait à ce moment-là, lui. C'est la dernière chose que ma mère ait su, en fait. Que j'allais avoir un autre enfant. Et elle, pareil, qui avait grandi avec un frère dont elle était très proche, elle a dit « Ah, enfin !» C'était la première fois que dans ses petits-enfants, il allait avoir une fratrie.
Ah oui.
Et ouais, elle a dit « Ah, enfin !» Et c'est le dernier truc qu'elle ait dit consciemment.
Ça te fait quoi?
Ah ouais, après, je voulais pas que ça soit un... Je veux pas que ça soit un poids pour mon fils, quoi. Mmh. Mais oui, il y avait quand même ce truc de...
Je parle de toi en tant que, ouais, en ouais. tant que fils et en tant que père, quoi, pour le
coup. Moi, c'était un... J'ai pas fait pour elle, hein. J'ai pas fait pour elle, mais effectivement, ça m'a... Je pense que ça m'a tenu quand même. Déjà, ma fille m'a tenu quand ma mère est décédée. Quand on lui a annoncé, elle a eu un petit truc, un petit passage de tristesse sur le visage. Et juste après, elle était dans son bain. Donc, elle avait 3 ans. 3 ans, ouais, quelque chose comme ça. Elle avait et petit voile de tristesse. Et puis, juste après, elle a rigolé. Et elle nous a fait rigoler. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est ça, la vie, quoi. Mmh. Ça va être ça, maintenant. On va s'accrocher à eux.
T'étais jeune, en plus. Quand
ouais. On est toujours trop jeune, mais ouais.
Oui. Il y a des moments...
Ouais,
voilà.
Ouais. Ouais.
Sauf, je pars du principe que quand tes parents n'ont pas connu tes enfants, tu vois, si t'en as, c'est, ouais. c'est un poil trop jeune. Quoi.
Exactement.
Ok.
Donc il est arrivé dans ce contexte-là, mon fils. Et ça s'est fait. Alors là, c'était ma femme qui voulait, elle, un deuxième là, à ce moment-là, qui a dit si, ça serait bien qu'ils aient un. Qu'ils soient deux et tout ça. Donc on était d'accord là-dessus. Après, moi, j'avais un peu l'esprit un peu ailleurs, mais j'ai dit oui, t'as raison. Et voilà, il arrivait vite aussi.
Ok. Et pareil, la rencontre avec ton fiston, ça se passe comment?
Bah, la rencontre avec mon fiston, j'étais un peu dans le deuil, donc j'étais en mode un peu plus automatique. Il y avait un truc, les premiers mois, je pense que c'était un truc un peu automatique. Puis professionnellement, c'était pas le bon moment pour moi parce que justement, moi j'avais plus de boulot, ma femme aussi était entre deux boulots, donc c'était un peu une période un peu compliquée. Mais il est arrivé en même temps que ma nièce de mon frère qui habitait juste à côté de chez moi.
Ouais.
Donc voilà, ils étaient déjà beaucoup ensemble.
Ouais, donc vous êtes en train de recréer un clan finalement de cousins, quoi.
Ouais, absolument. On recrée. Et voilà, et mon fils. Mon fils, ouais, il a trouvé sa place aussi tout de suite. Gros dormeur. Donc il y avait un truc où je le promenais beaucoup parce qu'il avait besoin beaucoup de dormir. Donc je le promenais beaucoup.
Il a fait ses nuits rapidement.
Ah oui, il est à 3 semaines.
Ah oui.
Ouais.
Désolé. c'est toujours dur.
Ouais, je le dis pas trop parce que je sais que
ça crée des
jalousies.
Pardon.
Voilà, j'ai l'impression d'être un peu prétentieux quand je dis ça. Et mes enfants ont dormi très tôt.
Ah ouais.
Les deux.
Ça facilite la vie, enfin ça change.
Ah ouais,
la vie.
Ouais, bah ouais, évidemment. Je pense que c'est aussi peut-être ça qui a simplifié le truc, c'est que à un mois tous les deux ils dormaient très bien et qu'ils ont toujours été hyper faciles. Ils se sont jamais vraiment réveillés la nuit. Ils sont gentils. Non, la vie est cool.
Arrête Nicolas de nous vendre.
En pardon.
Fait, non, mais c'est dis pas pardon, mais c'est juste c'est marrant de voir à quel point j'ai l'impression que tout est fluide. Pour toi et j'imagine aussi pour ta femme, tu vois, avec la parentalité. Et en fait, tu vois, quand ta pote te dit, tu vas voir, c'est la vie qui change 1 ou 2 millimètres, alors mon expérience n'est pas celle-ci, tu vois. Et l'expérience de plein de darons que j'ai interviewé, de darons, il y en a plein pour qui c'est, ok, renversement de table.
Je sais bien.
On met tout à zéro et on commence, quoi. Tu vois, le fait qu'elle. Et que toi, t'aies cette sensation-là aussi, tu vois, te dire, c'est la même vie, mais en fait, 1 ou 2 millimètres à côté, je suis là.
1 ou 2 millimètres à côté et en mieux, en plus.
Ouais.
Ouais, enfin, ouais, moi, j'ai l'impression. Ça m'apporte énormément de bonheur, d'abord. Mais vraiment, il y a un truc de. Quand tu dis ça m'apporte du bonheur, t'as un peu.
Oui, c'est
con.
Ça, c'est.
Mais. C'est ouais, en fait, c'est une source de. C'est une source de joie et de. Enfin, de les voir se marrer, de les voir. Chantonner un truc, de les voir reconnaître Brassens quand ils passent à la radio, je me dis, ah yeah, j'ai réussi un truc. De les entendre chantonner les Beatles, je me dis, yeah, allez, c'est bon, là, j'ai gagné. Puis de les voir grandir et d'avoir leur propre personnalité et tout ça. Enfin, ouais, je me sens bien avec eux, quoi.
C'est quoi la chanson que t'as fait écouter à ton fils en Prams?
Alors, du coup, après, parce que j'ai pas mal de neveux, de tout ça, donc il fallait trouver. Et lui, je lui ai fait écouter Quand on a que l'amour.
Ok.
Et je pense que ça joue parce que c'est un grand sentimental. Il y a besoin beaucoup d'affection, d'être assuré. Il vient se lever comme ça. Il est toujours, encore maintenant, il a 10 ans et il reste un peu comme ça. Il sait trouver sa bonne place, son truc comme ça pour. Je peux encore le couvrir et le manger. Ouais. C'est trop bien.
T'appréhendes le moment où ça va s'arrêter?
J'appréhende un peu le moment où ça va s'arrêter et en même temps, comme je le vis un peu en avance avec ma fille qui du coup grandit, En fait, je te disais tout à l'heure, ça me manque parfois de pas lui chanter de chansons, mais en même temps, je trouve qu'elle grandit bien et je suis content du rapport que j'ai avec elle maintenant. On peut discuter, elle me raconte des trucs, elle est intelligente, elle veut comprendre des trucs. Je me dis, ça avait bien réussi. Autant le reste, je sais pas, autant les enfants pour l'instant. Oui. C'est une bonne réussite.
Pas de mélancolie de ta part de...
Non, j'ai une mélancolie un peu anticipative où je me dis, oh la vache, l'année prochaine, elle rentre en troisième, dans 5 ans, 6 ans, le bac, le machin, elle va grandir, mais qu'est-ce que je vais faire? Et ils étaient où? Ils sont passés où? Mais pas concrètement.
Ok. Ok, ok. Je vois exactement.
Ouais. Ça te parle?
Ouais, ça me parle pas mal. Mais tu vois, par exemple, moi, l'un des trucs qui m'a fait vraiment basculer dans une forme de mélancolie. Je suis pas très mélancolique, tu vois, pas très nostalgique et tout. Mais il y a eu toute une période où j'allais à la piscine le samedi matin. Et en fait, mes filles m'accompagnaient quand elles avaient pas la flemme. Pas très souvent, mais ça m'est arrivé. Et en fait, il y a eu un matin là où elles étaient avec moi. Et il y avait un cours de bébé nageur. Et en fait, avec ma femme à l'époque, on est séparés aujourd'hui, mais tous les samedis matins, on allait faire les bébés nageurs. Et c'était trop cool parce qu'il y a un vrai côté de peau contre peau. Tu leur apprends à sauter dans la flotte, à ne pas avoir peur de l'eau, etc. Et en fait, tu vois, j'avais mes deux grandes zozos là, tu vois, qui font 1m60 chacune et tout. Et je me disais, putain, mais en fait, ça me manque. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc qui a changé. Et c'est, enfin, je sais pas, j'ai eu un vrai élan de mélancolie de, en fait, ça, c'est un truc que je vivrai plus jamais, quoi, tu vois, avec elle.
Mais ça, je vois. Ah ouais. Alors moi, c'est pas un truc, c'est marrant parce que je te disais oui, pareil, jusqu'au moment où t'as dit avec elle. C'est-à-dire que moi, j'ai le truc de me dire, oh, j'aurai plus jamais de bébé. Mm. Mais pas eux, ils seront plus jamais bébés. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui.
J'aurai plus jamais de bébé, j'aurai plus jamais ce truc de me dire, oh, c'est trop bien, mais.
Oui, alors je suis d'accord avec toi.
Parce que eux, je les trouve super comme ils sont maintenant et j'adore les voir évoluer et tout ça. Mais il y a effectivement ce truc de me dire, ah, je verrai plus. Je les verrai plus grandir comme ça, les petits trucs, les petits âges, les petits machins, les premiers dessins, les premiers. J'attends d'être grand-parent maintenant.
C'est vrai?
Non, mais pas tout de suite, mais je me dis, ah, ça va être cool quand je vais être grand-père. ça va être chouette. Faudra quand même que je m'arrange pour pas trop travailler à ce moment-là pour bien pouvoir m'occuper de mes petits enfants.
Ah, tu te projettes déjà là-dedans?
Oh, je me dis ouais, bah mais parce que j'adore les petits enfants, quoi. J'ai envie de manger comme ça.
Ok. Ah, c'est marrant. Je crois que c'est la première fois que j'ai un père qui me raconte qu'il se projette déjà, tu vois.
Bah ouais, mais peut-être parce que
t'es tellement face à des prises de tête, tu vois, à l'adolescence, etc., que t'es plutôt dans faire en sorte de.
Mais j'ai de la chance, peut-être, mais j'ai pas encore de prise de tête.
Trop bien.
Franchement, mon ado est super cool, quoi. Alors, elle s'affirme un peu, elle peut soupirer quand je lui demande un truc. Mais voilà, mais ça reste du domaine du raisonnable. Et puis, j'arrive vite à enclencher un autre truc, quoi. Un autre mode chez elle, et on discute, et elle me raconte ses trucs, et elle me pose des questions, et.
Ok.
Et elle veut encore passer du temps avec nous et tout, donc c'est cool.
Comment ça marche leur clan là pour l'instant? Leur clan à deux?
Leur clan à deux, ça va très bien. Ils se chamaillent un peu parce que je pense qu'elle veut être très. Elle a toujours été comme ça, elle a toujours été un peu maman. Donc elle aime bien que les choses soient bien faites et puis surtout elle veut nous plaire, donc elle aime bien que les choses soient faites comme nous on veut. Et comme lui il s'en fout complètement, elle a tendance à lui dire non, Georges, fais pas ça. Non, écoute. Et lui ça l'énerve. Donc il se chamaille un peu là-dessus. Mais
t'as appelé ton fils Georges?
Ah, j'ai appelé mon fils Georges pour Brassens, bien sûr. Évidemment.
Je l'avais.
Ouais. Et j'ai appelé mon chien, enfin le chien de mon fils, Ringo. Pour avoir Georges et Ringo. Ça, il nous manque plus que Paul et John. Voilà. Mais bien sûr, j'ai appelé mon fils Georges. Ma femme proposait d'autres prénoms. Je disais, ouais, non. Georges. Voilà. J'ai obtenu gain de cause.
Et ta fille s'appelle comment?
Norma.
Ok.
Voilà. Non, pas de.
Je cherchais une. Chercher une ref musicale, mais il n'y a pas.
Non.
Pourquoi autant de musique dans ta vie?
Oh, alors là, je sais pas, j'en écoute depuis que je suis tout petit. Les voyages en voiture avec mes parents, on choisissait si on allait dans la voiture de mon père ou de ma mère en fonction de la musique qu'on voulait écouter. Et
Que vous partez, oui, forcément, vous partez à deux voitures.
Mais oui, on partait à deux voitures à la campagne, dans la maison de mes grands-parents qui était à une heure de chez nous. Donc on partait tous les week-ends dans cette grande maison avec le. On avait construit le terrain de foot au fond du jardin. Donc voilà, on arrivait là-bas, hop, on allait se traîner dans la gadoue. Et ouais, beaucoup de musique de vieux.
Et que t'as récupéré.
Que j'ai gardé, ouais.
Que t'as récupéré aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Ok.
J'ai gardé ça. Barbara, Trainet.
Qui font partie de. On parlait tout à l'heure du podcast.
Ah bah oui, ouais, régulièrement, ouais.
Qui font partie des rêves que vous sortez. C'est vrai, ouais. Que. Mais c'est un truc qui vous rassemble tous les trois, là?
Ouais,
j'ai un peu l'impression. Hein.
Ah ouais, carrément. Avec Ambroise, on s'est rencontrés comme ça. En fait, on travaillait pour. On était tous les deux auteurs pour une émission de télé. Et Ambroise a toujours des t-shirts avec des citations. Parce que je ne le savais pas à l'époque. Et il avait un t-shirt avec écrit des amis inséparables qui se sont séparés.
Okay.
Et je suis allé le voir, je lui dis, mais tu sais que c'est dans une chanson de Vincent Delerme, mais qui est pas sur, qui est sur aucun album, qui est une chanson qu'il a faite en concert. Il me dit, mais ouais, je sais. Et voilà, on est devenus potes comme ça.
Donc beaucoup de chansons françaises.
Beaucoup, énormément de chansons françaises et les Beatles. Voilà, c'est tout. Le reste, faut pas m'en parler.
Et beaucoup... Non, c'est pas vrai. Et beaucoup de chansons à texte aussi.
Ah ouais, beaucoup de textes, ouais.
Ok.
Beaucoup de, ouais. Bah ouais, beaucoup de textes, beaucoup de. De jolies. De mélancolie dans les chansons, de trucs comme ça, ouais.
Comment tu arrives à gérer. Tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, tu disais que tu avais été journaliste d'abord et que aujourd'hui, tu écris plutôt de la fiction.
Ouais.
Et tu disais que c'était dur pour toi le métier de journaliste parce que c'est trop confronté au réel, quoi.
Ouais, trop de réel. Trop de. Parce que ma dernière expérience. Alors, autant j'ai fait du journalisme culture. Bon, là, ça allait. Oui. La confrontation au réel n'était pas trop compliquée, même si parfois j'ai vu des pièces un peu difficiles. Autant le dernier média pour lequel j'ai travaillé, qui était un média super, qui s'appelait Monkey, où on décryptait l'actualité en 3 minutes. Enfin, on donnait les clés, on prenait un aspect de l'actualité, on donnait les clés autour de ça pour que les gens puissent comprendre après l'actualité. Mais tous les jours, on se confrontait quand même à un truc de c'est des enculés. Donc il y a ça et parce qu'en fait les autres c'est enculé. J'ai dit oh, pénible, pas fait pour ça moi. Donc je préfère écrire des histoires d'amour même si elles se finissent pas bien, même s'il y a un peu de mélancolie, je préfère écrire des trucs un peu plus doux.
Comment tu appréhendes la confrontation du réel de tes enfants?
Écoute, ils y ont été confrontés finalement assez tôt, tu vois, parce que mon fils, avant même sa naissance, il a perdu sa grand-mère. Et ma fille, elle avait 2 ans et demi, elle a très bien compris de quoi il s'agissait.
Mais ça, c'est la mort finalement, tu vois.
Ouais.
C'est pas.
Oh bah, ça fait partie du réel quand même. Hein.
Mais ça fait partie de la vie.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que en fait, dans un monde idéal où tout irait bien, où tout irait bien.
Ouais.
C'est-à-dire vraiment, dans un monde idéal où tout irait bien pour toi par rapport à tes valeurs, etc., plutôt de gauche, j'ai bien compris.
Je confirme.
Il y aurait forcément la mort à un moment donné.
Ok.
Ce qui est pas. Pour moi, c'est pas vraiment le réel, ça. Certes, tu vois, je comprends que ce soit la vie, que ce soit la mort, et qu'en fait, c'est dur d'appréhender la mort, le deuil. Mais tu vois, c'est pas la même chose que, ok, Sarkozy est président, quoi. Ce qui.
Non. Non, je me demande ce qu'est le pire quand même. Entre la mort et Sarkozy. Difficile de choisir.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ta fille, elle a 13 ans. C'est une fille qui vit dans un monde, dans une société patriarcale.
Carrément.
Moi, je vois exactement. J'ai 2 filles aussi. Ce qu'elles se prennent dans la tronche sans même l'avoir jamais demandé. Tu vois,
ouais.
Ça fait partie d'une vraie confrontation au réel, ça, pour moi.
Oui, t'as raison. Et même plein d'autres petits détails de ruptures amoureuses ou de trucs comme ça. Là, je pense à ça parce qu'elle en a vécu une il n'y a pas très longtemps.
Oh, pipou.
Ouais, mais moi, je l'enviais un peu. C'est la chance. Tu vis ta première rupture amoureuse, profite-en.
Tu lui as dit
Non, je crois que je lui ai dit, mais pas tout de suite quand même. D'abord, j'ai été consolant et après, j'ai dit, tu peux m'en parler parce que quand même, j'adore ça, les ruptures amoureuses. J'en ai pas connu beaucoup, mais vraiment, c'est ma passion.
Oui, parce que...
Oui.
18 ans.
Ouais. Mais du coup, j'imagine, j'idéalise un peu ça. J'essaye de les confronter à la réalité, mais en leur disant, enfin, je sais j'ai souvent eu ce débat avec la sœur de ma femme qui disait, il faut que ta fille, elle s'endurcisse un peu, il faut qu'elle soit. Et je disais, non, moi, je préfère qu'elle soit gentille et bienveillante, et je suis sûr qu'elle s'en sortira comme ça. même si elle est un peu, elle pouvait être un peu naïve ou voilà comme ça un peu candide. Je préfère ça en fait. Je préfère qu'elle soit qu'elle appréhende le monde comme ça, en se disant ça va être beau, les gens vont être gentils, plutôt qu'en imaginant le pire ou tout ce qui pourrait lui arriver. Parce que je me dis en fait, si t'imagines pas que ça peut être beau, ça pourra jamais l'être. Il faut commencer par l'imaginer pour pouvoir le construire. Mon fils est plus, voilà, il a beaucoup d'angoisse et de trucs comme ça. Donc lui, j'essaie de l'apaiser en lui disant que tout va bien se passer et que surtout, voilà, bah il y a un clan autour de lui.
Le clan.
Qui va le protéger. Il y a une bulle de bienveillance et de.
C'est quoi les angoisses de ton fils à 10 ans?
Je sais, il les formule pas encore exactement, mais je pense qu'il a peur de, enfin, il a peur de plein de trucs. Il a peur de, par exemple, quand on met un mot pour la maîtresse pour lui souhaiter bonne année, il va pas le montrer parce que c'est pas important. Il a pas envie de la déranger. Il a pas envie de déranger les gens. Il a pas envie que les gens ne l'aiment pas. Alors que lui ne se prive pas pour, dès que des gens sont sortis de chez nous, nous dire, OK, on peut faire une critique sur machin. Et c'est le premier truc qu'il dit alors qu'il les adore, mais on peut faire une critique sur machin. Non. Et il développe. Mais lui, on lui explique, tu vois, toi, ça te dérange pas, c'est pas parce que tu les critiques, tu trouves des critiques que tu n'aimes pas les gens. Mais lui, il ne supporte pas l'idée qu'on puisse émettre une critique sur lui ou qu'on puisse avoir, émettre un petit doute comme ça sur lui. Et bon courage.
Et comment tu le vis, toi, en tant que parent? T'as envie de l'aider? Comment
c'est dur d'aider tes gamins à faire ça. Ouais, ouais, c'est très dur
comme
de l'aider
bon
à faire
courage,
ça.
Bon courage, quoi, tu vois. Va te prendre des portes dans la gueule.
Voilà, non, mais je lui dis, mais c'est pas grave. En fait, tu vois, j'essaye de le soulager, j'essaye de le raisonner. Je vois bien que pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'influence, mais j'essaie de faire en sorte qu'il se sente bien là où il est, en fait. Donc.
Et c'est dur pour toi quand ton fils, quand tu vois ton fils souffrir, par exemple, de ses angoisses?
Ah ouais, mais c'est insupportable. Je peux pas les voir souffrir, ouais. Ça me... Sauf une rupture amoureuse. Ça. Je trouve ça chouette, quand même. Ouais, ça, quand même. Je me dis, ah.
Pourquoi tu fantasmes la rupture comme ça?
Bah non, mais il y a un truc où tu vis intensément les choses, où t'as l'impression que vraiment c'est la fin du monde, que tu vas mourir, que... Oh, comment je vais faire et tout. Et après, tu t'aperçois que c'est pas vrai, en fait. Après, tu t'aperçois que tu survis. Donc, c'est la première fois, quand même, que quand tu ressens ça, c'est peut-être la seule fois de ta vie où tu vas vraiment avoir ce sentiment-là. Après, tu te dis, non, en fait, on s'en remet, on oublie. C'est décevant.
Ça se passe bien avec ta femme?
Ouais.
Vous êtes en train de préparer votre future rupture amoureuse et toi tu te dis ok,
allez, ouais, ça, je vous prépare.
Ça va être super va parce être que super. Là vraiment ça
vraiment,
fait.
Je vais en chier. Hein.
Combien de temps? 25 ans.
Ouais, allez. Ouais, non, ça se passe bien pour l'instant.
Ouais.
Désespérément bien.
C'est quoi les sujets dont tu aurais aimé parler?
Oh, les sujets dont j'aurais aimé parler?
Ouais, en rapport avec ta paternité.
En rapport avec, je réfléchis, hein. À part mes enfants, à part le fait que mon fils a eu un chien, et qu'on a beaucoup pleuré tous les deux.
Pourquoi?
Parce que lui, son rêve, enfin depuis qu'il a, je pense, 3 ans, moi j'avais très peur des chiens quand j'étais petit, mais lui, depuis qu'il a 3 ans, on s'arrête dans la rue pour caresser tous les chiens, demander si on peut les caresser, demander le nom, l'âge, la race, donc il les reconnaît. Quand on a déménagé, les premières personnes qu'on a rencontrées, comme on est arrivé en période de confinement en plus, c'était des propriétaires de chiens. Ses premiers amis qu'on s'est fait, c'était comme ça, c'était grâce à mon fils. Et puis pour ses 10 ans, on s'est dit allez, on va lui offrir un chien, ça va aussi, ça va apaiser ses angoisses et tout ça. Et quand on est allé chercher le chien, je savais qu'en fait ça allait être fou pour lui, quoi. On lui a pas dit, on lui a fait la surprise.
Ah oui.
Et ouais, il s'est mis à pleurer, moi je pleurais aussi.
Oh.
C'était trop bien.
Pourquoi tu pleurais?
Ah, je pleurais parce que il est bouleversé. Il est. Ah, moi, pareil. Quand ils sont bouleversés, je suis bouleversé, moi. Mais enfin, je pleure devant Hook, hein. Donc, je pleure facilement.
Ouais. T'as gardé ton âme d'enfant, quoi.
Ah ouais. Fort.
Ok.
On regarde Hook ensemble régulièrement et je pleure à chaque fois.
Et.
J'aime bien leur transmettre des trucs comme ça.
Comme quoi?
Comme des films que j'ai aimés, ouais. Ou des. Des trucs qui m'ont touché. J'aime bien voir, il y a ce film documentaire de Vincent Delerme qui s'appelle Je ne sais pas si c'est tout le monde.
Oui.
Où il se pose la question de savoir est-ce que ce qui me touche, ça touche d'autres gens pareils. Bah, j'aime bien savoir ça, moi. Et puis, pareil, là, dans une chanson, il dit est retrouvé 20 ans après, dans notre enfant, les mêmes alarmes pour les choses qui nous alarmaient. Ah, j'aime bien ça, retrouver des trucs et me dire ah, ça aussi, ça me. Ça aussi, ça me touchait. Ça. Quand j'étais petit, ça me. Ouh. Voilà.
J'ai l'impression que tout est tellement fluide pour toi, en fait. C'est. Je t'envie un peu. Vraiment.
Je m'envie moi-même, tu sais. C'est vrai, en plus.
Mais d'où vient cette fluidité par rapport à la. Est-ce que c'est tu fais ça dans. Comment dire. Est-ce que c'est pareil dans tous les pans de ta vie.
Mais.
C'est simple, entre guillemets.
En fait, peut-être que ça vient. Je me suis fait cette réflexion-là il n'y a pas longtemps avec mon frangin. On calculait à quel âge ma mère avait perdu son père, sa mère. Donc en fait, avant 30 ans, elle avait perdu son père et sa mère. Avant 40, elle avait perdu son frère aussi. Et pour elle, tu vois, une journée où il pleut toute la journée et à un moment il s'arrête de pleuvoir, elle veut dire « Ah, il fait beau !» Elle te disait ça. Et il y avait cette force-là de se dire « Ok, il faut qu'en fait, si tu veux que la vie soit belle, décide-le. » C'est un peu facile comme truc parce qu'il y a des situations où quand même c'est plus compliqué que d'autres. Moi, j'ai la chance d'avoir une vie... Tout va plutôt bien, donc je pourrais trouver des raisons de me plaindre, comme tout le monde. J'ai plutôt décidé de trouver des raisons de me réjouir. Là, comme je te disais, on a eu un chien. Ben, un chien, il faut le sortir beaucoup. Moi, d'une obligation, j'ai fait un plaisir. En fait, je me suis dit, bah, oui, il faut le sortir. Bah, en fait, ça va être chouette, quoi. On va aller se promener dans le bois, on va rencontrer des gens, on va se promener, on va voir la nature.
Et quand tu dis on va se promener, t'amènes ton fiston avec, c'est ça ?
Alors j'amène mon fiston avec quand il n'est pas à l'école. Mais sinon, moi, plusieurs fois par jour, je vais me promener et puis je rencontre des potes. Voilà, viens, on va se balader. Ou alors j'écoute des podcasts. Voilà. Donc d'une obligation, je fais un truc. Et oui, j'ai décidé, je crois, de pas trop m'encombrer de... Après, des trucs qui m'emmerdent vraiment, je les fais pas. Il y a plein de trucs administratifs qui m'emmerdent, je mets un peu sous le tapis. Mais.
Tôt ou tard, tu vas te rattraper.
Oui, tôt ou tard, ça me rattrape déjà. Et régulièrement, je suis rattrapé et j'apprends pas assez de mes erreurs. Mais il y a plein de trucs où. Bah, comme je te disais tout à l'heure, le coup du parc, en fait. Pour les enfants, ah, c'est chiant. Non, c'est pas chiant, c'est cool. Ou d'aller promener son fils en poussette, ou même de. Quand il se réveillait un peu tôt le matin, de se dire « Ah ouais, c'est chiant, les enfants, ça se réveille tôt le matin. » Je dis ah, « Franchement, excuse-moi, tu te réveilles et t'as ton fils qui te sourit ou tu lui donnes son biberon ou c'est cool. » Ou donner le bain à ses enfants, je trouve ça trop bien, moi. Quand ma fille est arrivée, mais même un peu avant, j'ai signé un contrat pour un site de musique et je leur ai juste dit « Moi, je vais être papa, je vous préviens, je fais pas des horaires à rallonge. Je veux être là pour pouvoir donner le bain. » Et comme je suis tombé sur la meilleure DRH du monde, elle m'a dit « Ah ouais, je te comprends. » Voilà. Mais c'était le deal. Moi, j'ai dit « Moi, en fait, je veux pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Je veux pouvoir en profiter. Je veux pouvoir être là pour eux. Je veux les accompagner en sortie scolaire. »
Ok. C'est quoi les trucs sur lesquels tu butes ?
Avec mes enfants ? Ouais. J'en vois pas trop pour l'instant.
Waouh.
Ouais.
Le mec.
Non, mais c'est vrai. Mais parce que...
Mais trop bien.
Ouais, ouais. Après, il y a certains trucs sur lesquels je peux être un peu plus rigide ou sans doute des trucs comme ça où tu vois, je vais pas lâcher pour des conneries.
J'imagine tellement pas rigide. Mais c'est quoi les trucs sur lesquels t'es rigide ?
Mais j'en sais rien. Non, mais tu vois, ça va être les horaires de coucher. Ouais. J'aime bien qu'ils se couchent plutôt tôt. Je veux pas qu'ils soient fatigués en fait. Je me dis, ah, on peut pas leur imposer un truc où on les couche tard et du coup après ils sont fatigués parce que nous ça nous arrange. Alors maintenant c'est inversé, c'est-à-dire que eux ils demandent, enfin surtout ma fille, j'ai abandonné, elle a besoin de très peu de sommeil, c'est pas ma fille. Mais mon fils qui a besoin de beaucoup de sommeil, il veut pas se coucher, tu vois, il comprend pas pourquoi sa sœur va se coucher après lui et tout ça. Et moi je sais qu'en fait lui il a besoin de bien dormir pour être en forme le lendemain et tout ça. Donc ça je peux être un peu rigide sur les horaires de coucher.
C'est dur de gérer la différence d'âge entre des enfants.
Ouais, oui, parce qu'il y a des trucs où...
Surtout entre le premier et le deuxième.
Oui, oui, forcément, il y a un truc de... Ils comprennent pas pourquoi... Et ma fille, parfois, ne comprend pas pourquoi son frère a le droit de faire des trucs qu'elle-même n'avait pas le droit de faire à cet âge-là.
Ah, elle est là-dedans. Elle est dans.
Un peu, mais pas vraiment. Ils sont pas vraiment. Mais ça peut arriver, tu vois, qu'elle puisse me dire, bah, je comprends pas. Il est. Je dis, bah oui, mais bon, ça y est, nous, on a vécu des trucs. Tu sais, toi, ta tétine, quand elle tombait par terre, on la passait pendant 2 heures à l'eau bouillante. Lui, on l'essuyait sur notre jean, quoi. Il y a un truc comme ça. Oui, oui, c'est pas très grave. Eh bah. Ouais, t'es deuxième enfant, t'es moins regardant sur certains trucs. Et lui, mais lui, il... mais bon, ça y est, il nous dit, ah, ça va, j'ai compris, c'est parce qu'elle est plus grande, ok. Et il part dans sa chambre.
Oh là là.
En claquant la porte.
10 ans.
Ouais, 10 ans. Et c'est un peu, il est un peu drama. Il aime bien se mettre en scène. Jean-Paul Belmondo.
Toujours les bonnes rêves.
Ah ouais, ouais. Ouais, c'est Jean-Paul.
C'est Jean-Paul.
C'est Jean-Paul Belmondo.
Tu l'appelles comme ça?
Je l'appelle Jean-Paul Belmondo.
Quand il fait ça.
Quand il fait ça. Calme-toi, redescends, t'es pas sur une scène. Mais en même temps, je trouve ça chouette, quoi. Il vit comme ça, les trucs passionnément.
Mm.
Non, c'est cool.
J'ai envie de te poser 2 dernières questions. C'est quoi le truc que t'aurais aimé savoir avant de devenir père?
Du coup, j'aurais découvert
ouais.
Après.
Ouais. Et qui t'aurait aidé.
Ouais, qui m'aurait
d'emblée.
Aidé. Ouais. Je peux répondre rien parce que j'ai adoré tout découvrir, en fait.
Ok.
J'ai aimé la surprise de découvrir, d'être entouré de gens qui pouvaient me donner des conseils. Mais le meilleur conseil qu'on m'a donné, je pense, c'était ma pédiatre. J'avais la chance qui s'est aussi occupée de moi.
Non, ça c'est génial.
Parce que c'était une amie de ma mère, donc elle s'est occupée de mes enfants et on lui demandait, tu vois, parfois, mais alors à quel âge il faut le mettre dans sa chambre, à quel âge, tout ça. Elle a dit, en fait, c'est ton enfant, tu sauras. Et ça, c'est très déculpabilisant, en fait, de se dire, on fait comme on peut. Déjà, c'est un truc dans la vie. Qui est pas mal, pas que pour les parents, on fait comme on peut. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé à me dire, ok, pour elle, ça sera, pour ma fille, ça sera comme ça, pour mon fils, c'est un peu différent. Parce que eux ne sont pas les mêmes, parce que moi, je suis plus exactement le même que ce que j'étais à l'époque. Donc, non, il n'y a rien que j'aurais voulu qu'on me dise ou avant, ou pour me prévenir, ou un truc comme ça. Il y a ce truc. Sur l'accouchement, beaucoup, pour les femmes entre elles qui se disent « on te dit pas la vérité sur l'accouchement » et tout ça. Moi, jusqu'ici, j'ai tout aimé. Vraiment, il n'y a aucun truc où je me suis dit « oh, ça c'était chiant ». Même les couches. Changer les couches, moi, pas de problème, on change des couches, qu'est-ce que je te dis, il faut le faire.
Ouais, ouais.
Change des couches, oui, au milieu de la nuit, on change des couches. Oui, on nettoie du vomi, oui, on...
C'est pour prendre soin.
Ouais, c'est pour prendre soin. Il y a un truc où même les couches, parfois c'est des moments de partage, quoi, où ils sourient, où ils se marrent, où ils te pissent dessus quand tu les. Voilà. Ouais, tu t'es fait pisser dessus. Bah, c'est pas grave.
Les garçons, ils te pissent dessus. Les filles, elles se pissent dessus.
Ouais, alors je sais pas comment faisait ma fille. Ah oui, non, parce que ma fille, du coup, je la déshabillais dans sa chambre. Et après, je l'emmenais dans la salle de bain. Et le temps que je la prenne dans les bras, c'était à ce moment-là qu'elle me pissait dessus.
Ce qui est d'ailleurs très intéressant de se rendre compte à quel point les filles se pissent dessus quand tu leur changes et les garçons te pissent dessus.
Ouais,
tu vois,
exactement.
C'est très patriarcal. je sais pas où je vais. Écoute, merci. La dernière question que je voulais te poser.
Ah oui, je vais te dire, il y avait une dernière question. Tu m'en as promis 2, j'en ai eu qu'une.
T'inquiète, j'ai pas oublié. Imagine, tes enfants écoutent ce podcast dans 10 ans.
Ouais.
Sur 23 et 20 ans, et toi, tu auras 52 ans.
La vache.
Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, là, aujourd'hui?
Alors, j'ai envie de leur dire une phrase que j'ai lue dans un bouquin de Lola Lafont, qui s'appelle « De ça, je me console », où le père donne comme conseil à sa fille « Essaye d'être heureuse tous les jours ». Donc, les enfants, j'espère que vous êtes heureux tous les jours.
Au moins
un peu. Ouais, essaye. Faut tendre vers ça.
Tu m'as pas beaucoup parlé de ton papa. Je pense à ça.
Oui, je t'ai pas beaucoup parlé. Alors, c'est vrai, il est toujours là. Il a 93 ans. Juste, ouais. Il y a 80...
oui.
Ouais. Il y a 93 ans, il nous a eu tard.
Et oui.
Ouais, il nous a eu tard. Il a eu toute une première vie de célibataire. Voilà, mais il a rencontré ma mère assez tard. Peut-être, non, j'allais dire peut-être parce qu'il est vivant, je suis moins proche de lui. J'ai tendance à être proche des morts, comme, avec Brassens et tout.
Oui, c'est clair. C'est
vrai que j'aime bien les morts. Non, mais je pense que, oui, effectivement, j'étais plus proche de ma mère que de mon père. Mais non, il voit beaucoup, je le vois beaucoup. Pareil, on continue de le voir, de s'occuper de lui, de passer du temps avec lui. Mais j'ai l'impression, à part le goût de la chanson française, qui m'a transmis, qui est quand même important, mais même s'il a tendance à dire que Michel Jonas fait tout le temps la même chose, par exemple, ça m'énerve.
Il y a des débats.
Oui, il y a des débats. Arrête. Oui, il aime bien dire. Ça, c'est vraiment sa meilleure.
Exactement. Il chante toujours un peu comme ça.
Mais oui, il a ce truc.
Je suis d'accord.
Ouais. Bah oui, non, mais oui, mais on peut dire la même chose de Brassens, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Ou de tout le monde, de n'importe qui, en fait.
De Lerme aussi, il chante beaucoup.
De Lerme, attention. Hein.
Pardon, j'aime beaucoup Vincent de Lerme.
Jonas a beaucoup. Enfin, oui, tu reconnais son truc, mais il y a quand même beaucoup de trucs différents. C'est marrant, la dernière fois, je réécoutais. Je suis tombé par hasard sur un disque que j'écoutais quand j'avais 15 ans, qui était un disque de Jonas. Et je me suis retrouvé là, et j'ai eu cette bouffée de mélancolie à me dire oh, putain, j'aurais plus jamais 15 ans. Ça, c'est dur. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était il y a presque 30 ans. Et ça m'a foutu un coup de vieux.
C'est dur pour toi de dire.
C'est dur pour moi. De me dire que du coup on se rapproche un peu de. On sait pas combien de temps il reste exactement avant la fin et qu'il y a quand même encore 2-3 trucs à faire, quoi.
Comme quoi
Continuer à être heureux.
À
essayer d'être heureux, ouais. Moi, pour l'instant, j'y arrive plutôt pas mal. Alors je vais essayer de tenir ça. Non, ça, ouais, connaître mes petits-enfants. Voilà. Ce genre d'accomplissement, je vise.
Et tes enfants, tu disais tout à l'heure que vous êtes en train de recréer le cercle de cousins, là. Comment ça se passe?
Écoute, ils s'entendent très très bien. Mon fils est dans la même classe que sa cousine.
C'est génial, ça va.
Ouais, ils sont dans la même classe, ils ont fait depuis la crèche jusqu'au CE1 ensemble. Ils ont fait le CE2, CM1 séparés, là ils se retrouvent dans la même classe. Donc ils sont contents. Et ce qui est drôle, c'est que même mes cousins, mes neveux, je veux dire, du côté de ma femme, sont potes avec mes neveux du côté de mon frère, parce que mon frère connaît ma belle-sœur, ils étaient potes. Ah oui. Donc ils partent parfois en vacances ensemble. Donc tout le monde se connaît. Donc quand on part à la campagne et qu'il y a tout le monde qui vient, il y a tout le monde qui vient.
Ça fait un peu comme un bon film français, finalement.
Exactement.
Avec Jean-Paul Roux, par exemple.
Voilà.
Je sais pas.
Il y avait un truc avec Jean-Paul Roux, avec... Tu vois, moi j'aurais dit Serge Reggiani, mais c'est parce que j'ai des références de mon âge, 72 ans. Voilà.
Merci beaucoup, Nicolas.
Ah je t'en prie.
C'était
merci
super
à toi.
Chouette.
Tant mieux.
Et puis allez écouter ce podcast que à titre personnel j'adore et que je vous conseille d'écouter. Voilà.
Des trains à travers la plaine et militer pour que les prochains épisodes arrivent bientôt.
Oui, mais bon, ça.
Ouais.
Commence par militer toi.
Ouais, mais je milite, mais je pense que si tout le monde s'y met, on va y arriver.
Merci bien, c'était cool. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week in In fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.